definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this.
I have a dream.
Et bonjour, escapadiens, escapadiennes, heureuse de vous retrouver sur nos ondes, sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1. Puis vous pouvez retrouver nos émissions sur le www.radioescapades.org. Alors, aujourd'hui dans le royaume de l'intermédiaire, nous allons découvrir, je vais vous faire découvrir, un écrivain, Pascal Rosler. Je l'ai découverte sur le site Zéthéo. Alors, je me permets de vous parler de ce site. Après, chacun son appréciation, à savoir que c'est quand même un site spirituel basé sur le Christ, mais qui ouvre les portes quand même à beaucoup d'écrivains, philosophes et historiens qui sont très intéressants. Et donc, parmi ce site, j'ai découvert Pascal Rosler. Alors, Pascal Rosler nous fait découvrir son écologie de la nature, de la vie et de la joie. Ancienne responsable politique déléguée à la biodiversité et coach et conférencière, formée aux sciences de l'environnement, elle accompagne aujourd'hui les transitions écologiques pour des structures collectives comme pour des personnes, privées. Et elle vient de publier « Révéler votre nature ». Qu'elle présente comme un guide de l'écologie intérieure et relationnelle pour un monde meilleur. L'originalité de son approche, c'est la largeur en même temps que la profondeur de son regard. Largeur dans sa prise en considération des immenses défis écologiques qui se dressent devant nous, et en profondeur dans sa vision d'une transformation personnelle par l'éco-psychologie et aussi la spiritualité. C'est ainsi, selon elle, que nous pouvons réellement contribuer à l'avènement d'une meilleure manière d'habiter la Terre ensemble. Face à nos enjeux actuels, ceux de la perte de nos repères, la crise écologique, le délitement de la solidarité, toutes les déstabilisations individuelles et collectives que nous subissons, il est possible de redonner à nos vies des trajectoires personnelles épanouissantes. Avec son talent, son énergie et sa sérénité, Pascal Rosler offre un témoignage puissant et convaincant. Chez elle, l'amour de la nature et la passion du vivant composent une belle symphonie, portée par une joie rayonnante grâce à des acteurs engagés comme elle. Le monde meilleur que nous espérons pour demain est déjà en marche et dès aujourd'hui. Je vais vous faire une petite pause musicale. Alors, en compagnie de Lou Doyon avec Rare to Start. Myself for taking part. Start avec Louis Doyon. Vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et qui vous fait découvrir une autre Pascal, qui est Pascal Rossler, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Révéler votre nature » et qui est suite à l'introduction que je vous ai présentée d'elle et qui nous demande de faire nous-mêmes notre catharsis naturelle et notre écologie intérieure. Vous êtes sensible à l'avenir de la planète et de l'humanité, nous dit-elle. Vous voulez vivre une vie pleine de sens, de joie, en accord avec la nature. La bonne nouvelle est qu'à l'échelle de chacun, contribuer à bâtir un monde meilleur est possible. Pour toutes celles et ceux qui aspirent à ce changement, Révéler votre nature est l'ouvrage riche de dizaines d'exercices pratiques et une invitation à vous révéler à travers un projet comme faisant partie d'une société, d'un monde que vous souhaitez plus juste et durable. Ce parcours initiatique implique de prendre soin de trois écologies, intérieure, relationnelle et environnementale. Suite à cette introduction, je vous la présente. Et si la vie était un don merveilleux et le monde une terre d'abondance propice à son épanouissement? De nos jours, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur raison d'être et leur responsabilité dans notre société en mutation. Perte de repères, crise écologique, délitement de la solidarité, tout cela fait que nous avons plein de questions. Notre époque traverse des fortes déstabilisations individuelles et collectives. Le sens dans nos vies passe pourtant par une inscription de chacun dans une trajectoire personnelle épanouissante, contribuant à l'avènement d'une autre manière d'habiter la Terre ensemble. Cette raison d'être que nous cherchons se comporte en particulier à un modèle qui invite moins à être qu'à avoir. Or, une raison d'être est bien différente d'une raison d'avoir. Notre quête de conscience et d'intégrité se réveille par des chemins parfois détournés. En témoignent les signaux de mal-être grandissant, personnel ou collectif, dont l'intention au fond est positive. En cela, chaque crise porte en elle une opportunité. Alors, si aborder l'avenir avec enthousiasme, mettre nos élans au service du lien et du bien commun, permettrait de faire de l'espoir et de l'envie des moteurs de nos vies. Cet ouvrage est une invitation à cheminer dans une vision globale de l'écologie, une écologie de vie, bonne pour soi, pour les autres et pour le monde, un parcours qui mène de l'être au faire, dans l'harmonie de son interconnexion avec tout ce qui vit. En effet, se reconnecter à soi, à ses aspirations, à ses émotions, en s'affranchissant des injonctions qui nous entravent, éveiller notre sensibilité au monde et libère une considérable élan. Le premier bonne nouvelle de ce livre révèle et donc que le profond respect de soi-même retentit inéluctablement sur le regard que nous portons sur l'autre et sur notre environnement commun. Loin de rester centré sur nous-mêmes, ce chemin vers notre autonomie sert en réalité une conscience accrue de nos interdépendances. Chacun est ensuite libre de nourrir ou d'étouffer cette invitation à enrichir son écologie relationnelle avec le plus grand respect de cette planète. La seconde bonne nouvelle que je souhaite partager est que par-delà les mécanismes façonnés de notre cerveau, Les neurosciences et l'expérience nous montrent que raffiner nos élans en fonction de ce qui fait profondément sens pour nous est possible. Cela conduit même à une joie bien différente des plaisirs de court terme. La plasticité du cerveau humain atteste de notre capacité à nous reprogrammer, à opérer une sorte de rééducation neuronale. Ainsi, la neuropsychologie révèle un nouveau sens au mot « liberté ». S'accomplir dans un mouvement bénéfique pour soi, autrui et le monde nous rend heureux et révèle bel et bien un choix. Pour goûter ce bonheur, il y a aussi un chemin à parcourir. C'est pourquoi, au fil de l'ouvrage, je vous invite à réaliser toutes sortes d'exercices pour tisser le pont entre ce qui vous nourrit, fait sens pour vous et vos choix de vie. Ça, c'est un beau message d'un relationnel dans le royaume de l'intermédiaire, n'est-ce pas, entre la nature et la conscience. Vous vous identifierez vos schémas inconscients, vous vous appuierez sur vos forces, vous poserez les actes qui conjuguent concrètement vos aspirations à un équilibre personnel, familial, professionnel, social fructueux, mais aussi respectueux. Tout en tenant compte des obstacles potentiels, des diverses ressources et leviers qui sont les vôtres. Vous pourrez alors planifier dans un timing réaliste les différentes étapes de votre transformation de vie. Vous pouvez m'écrire, dit-elle, et vous pouvez faire part de vos interrogations, de vos choix, de vos engagements et de votre progression. Elle en sera heureuse de vous écouter, de vous accueillir et de vous renvoyer éventuellement un certain questionnaire. Tout est lié, dit-elle. Il faut savoir appréhender la complexité qui représente un grand enjeu de notre époque. Et cet ouvrage est là pour ça. Il est structuré selon une progression allant de l'intérieur vers l'extérieur, de soi aux autres, de l'écologie intérieure au bien commun, de la prise de conscience à l'action. Rappelons-nous toutefois que les concepts abordés peuvent souvent s'appliquer à différents niveaux, car il existe un principe de correspondance, ce qui est dedans et dehors, et nous créons nos vies par projection de nos réalités intérieures. L'aventure vers la meilleure version de vous-même peut donc commencer ou se poursuivre, n'est-ce pas beau ? Allez, avant de continuer cette belle image de nous-mêmes, nous allons faire une petite pause en compagnie de l'impératrice Vacances.
Tropicale, le soleil de Rio. Mais s'endort à la lumière des météores. Fin du mirage dans un frisson. Encore quelques heures à bord. Non, les vacances, c'est pas la mort.
L'impératrice, vacances. Et oui, vous êtes en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire. Et nous apprécions la fin de l'impératrice qui ponctue avec nos belles paroles qui sont évidemment la catharsis écologique de notre esprit. Alors, elle nous encourage, Pascal Rossler, à se mobiliser avec courage et nécessaire pour se remanier, s'optimiser. Et cette vertu nous est collectivement indispensable pour opérer les transformations de notre société dont elle a besoin. Alors, elle nous invite à partir à la découverte de nos potentiels, de cette écologie globale de vie avec entrain, curiosité et même délice, et surtout avec douceur, tolérance, patience envers nous-mêmes. La détermination nécessaire pour persévérer dans ce cheminement implique d'y trouver du plaisir et de respecter son rythme naturel, physique et psychique. Donc, conscience et persévérance, oui, tyrannie de l'exigence, non. Elle nous propose donc d'observer, d'expérimenter, de découvrir nos forces, nos faiblesses, d'appréhender et d'apprendre de nos réussites comme de nos échecs pour évoluer. Sans sévérité ni complaisance, nous pourrions discerner au fur et à mesure les piliers et pivots qui nous structurent, les tamis qui nous guident et ceux qui nous appartiennent le plus. Certains aspects peuvent demeurer immuables, mais la vie est dynamique et les facettes de nous-mêmes que nous révélons au gré des circonstances le sont parfois aussi. Il existe de rien de constant, ce n'est que du changement. Ça nous enseigne ça, par Bouddha. À l'heure où l'excès de croissance matérielle détruit notre planète, notre santé et nous envahit d'objets futiles qui accaparent notre énergie, il semble urgent de considérer sérieusement la connaissance de soi, autant que ses corollaires, le respect, le bien-être, la reliance à autrui, les synergies, le sens et la joie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, enseignait Socrate. C'est cette qualité profonde d'être qui vous ouvrira les portes d'un équilibre vibrant avec l'autre, avec le monde, entre contribution et ressources, dans un chemin enthousiaste de responsabilité, de générosité. Telle est la proposition de l'écologie globale. Percez le mystère de qui nous sommes vraiment et révéler le goût de notre essence joyeuse, autant que vivante, libre, vertueuse et reliée. Beau voyage dans ce livre, qui est un message d'amour à la terre et aux humains, un message d'espoir. C'est son devoir. Alors qu'adviendra-t-il si, au lieu de jouer un rôle, de nous conformer aux normes, aux modes, aux attentes supposées venant des autres? D'ailleurs, il y a une phrase très connue, « Si tu sais qui tu es, tu n'auras plus peur », disait le Dalai Lama, n'est-ce pas? Et puis, c'est très important de se décider à être nous-mêmes. Si notre premier réflexe était de respecter notre nature profonde, savoir se révéler ainsi, c'est parvenir à trouver son écologie intérieure, un chemin qui implique une connaissance de soi libérée des diverses injonctions et limitations issues de notre histoire, consciente et inconsciente. Un voyage passionnant menant à un équilibre de vie, exprimant pleinement qui nous sommes dans nos dimensions physiques, comportementales, psycho-affectives et spirituelles. Pour atteindre le noyau, il faut briser l'écorce. nous dit le théologien Maître Eckhart. Discerner son identité profonde, s'actualiser pour atteindre la meilleure version de soi-même, vertueuse et épanouissante, implique un travail de conscience et de volonté. Mais que de bénéfices et de satisfactions naissent de ce défi ? Lancez-le-vous, c'est nécessaire, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut connaître son identité non figée, honorer ses valeurs phares, savoir nos grands besoins, aller à la découverte de nos talents, connaître le fil d'Ariane, dompter la peur de l'échec, les croyances limitantes et contraignantes, reprogrammer un schéma limitant et non limitant, désamorcer votre culpabilité, s'autoriser l'avenir, se pardonner, la visualisation créatrice. Voilà tout un programme que nous propose Pascale Rössler dans son livre. Et elle commence par s'introduire par les bases de la connaissance évidemment de soi. Souvent, femme varie, disait François Ier. Volontairement, je ne m'attarderai pas sur la suite de cette vétuste maxime royale. Bien folle qui s'y fit, jugement égocentré d'un homme pour qui le caractère multifacette d'une personnalité représente incontestablement un défaut. Cela dit, être soi-même implique-t-il des caractéristiques précises ? Le soi qui serait toujours stable, délimité, prévisible, existe-t-il ? La psychologie nous montre plutôt que nous changeons régulièrement en fonction de notre environnement, des circonstances, des personnes de notre entourage, de notre sommeil, de nos succès, de nos échecs, de nos amours. Au bout du compte, notre soi-même ne semble pas toujours tout à fait le même. Si l'on entend par « être soi-même » laisser libre cours à l'expression de tous les programmes qui nous façonnent à nos élans instinctifs et pulsionnels, au défoulement non maîtrisé de nos émotions, cela peut vite devenir problématique. Se montrer obtus, pessimiste, agressif, laisser s'exprimer son ego sans filtre, voilà qui n'est ni très constructif ni très glorieux. Pour mener notre vie, ne vaut-il pas mieux suivre nos idéaux et nos valeurs plutôt que nos habitudes et nos élans, voire nos peurs, nos blessures inconscientes ? Ces aspirations peuvent, croit-on, devenir notre, au point de contribuer notre identité, se traduire dans une vie problématique. Tout cet ouvrage sera consacré à ce travail d'évolution vers une mise en cohérence de ce à quoi on aspire, qui fait sens, qui fait nous et qui nous fait du bien, surtout. Qui nous fait du bien. Alors ça, c'est tout un programme. C'est le programme inconscient. En plus, nous savons que nous possédons environ 100 milliards de neurones, dont 40 000 dans le cœur. Et captons grâce à cet équipement 400 milliards d'informations par seconde. Pourtant, malgré cet immense potentiel, le cerveau a tendance à économiser ses forces. Les études montrent que 95% de notre flux de pensée est identique d'un jour à l'autre et qu'au moins 90% de notre activité cérébrale est non consciente. Tels des autoroutes mentales, les schémas de notre cerveau fonctionnent donc en très grande majorité de manière inconsciente, conditionnée et répétitive. Une tendance dictée notamment par notre cerveau primaire, qui évite les risques en se cantonnant à notre zone de connu. Ainsi, évoluer demande de défricher de nouveaux circuits. Car la plasticité de notre cerveau est immense. Ce cheminement commence par la conscience, l'envie de fonctionner autrement et se poursuit par l'action qui permet de tester d'autres manières de faire et qui nous reconditionne. Avec le temps, ces nouveaux schémas deviendront à leur tour automatique. Ça demande du travail, un petit peu, mais sans se forcer. Alors, il faut, évidemment, créer une identité plurielle et évolutive. Avant que je vous raconte qu'est-ce que c'est qu'une identité plurielle et évolutive, nous allons poursuivre avec un petit moment musical en compagnie de Club des Belugas, Save a Little Love Falls Me.
human expectation driving me insane. What you doing while you're out there? Has anyone else managed to restrain you? Better save a little love for me. Time. When the sun comes up, you're running as if you committed a crime. And I cry, save a little love for me. When you put your arms around me, I forget the pain. Tell me, are you thinking of me? Does my arms making you feel the same? Save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you're there, there and you're here. What can I say to make you not fear? Love is all I'm asking you to be. Mornings took away baby, leaving me with shame. While you're wandering the streets, I'm forced to wait here. My heart is in pain. Please save a little love for me. Only at nights when no one is awake to see, you take off the mask, letting yourself be closer to my sweet melody. You turn and ask, save a little love for me. You go and you come, come and you go. What can I do to make you know that sweetest melody? Here and you're there, there and you're here. What can I say to make you not feel?
Club des Belugas, voilà, vous êtes dans le royaume de l'intermédiaire en compagnie de Pascal sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1. Et vous pouvez retrouver nos émissions sur le www.radioescapades.org. Voilà, je suis ravie de vous retrouver et de vous faire partager, révéler votre nature de Pascal Rossler. Et nous en étions à une identité plurielle et évolutive qui ensuite nous raconte comment se reconnecter à nos valeurs et combler ses besoins. Alors, partir à la rencontre de soi n'est pas une ligne droite en terre familière, mais bien un voyage qui appelle souvent une forme d'altérité avec soi-même, permettant une authentique découverte de celui qui habite derrière son apparence. À l'image des Matryoshka, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, si nous prenons comme postulat que notre identité profonde est la plus petite des poupées, sommes-nous conscients que cette identité est elle-même intriquée parmi tant d'autres ? Eh bien oui, bien avant d'être je suis d'abord ce mammifère terrestre, avant toujours en commun avec mon ancêtre préhistorique, ce cerveau reptilien qui dicte mes comportements de base. Mais ce je peut aussi être un occidental ou un asiatique, un américain, un africain, bref, il porte en lui de multiples attributs propres à ces grandes familles de populations. Continuant d'ouvrir ma poupée russe, je me découvre donc française. C'est en tout ça qu'a ainsi que j'apparais dans un anglais ou un japonais, avant même que j'ai pu me présenter, je suis affublée de toutes les images plus ou moins folkloriques associées à mon identité, gastronomie, French lover, Mont-Saint-Michel, haute couture, bon vin, Rousseau, etc. Mais je ne suis pas que française, j'ai des racines, peut-être savoyarde, bretonne, corse, basque, auvergnate, polonaise, italienne, marocaine. En quelques minutes, vous trouverez des caractéristiques fortes issues de ces identités qui constituent l'individu de manière plus ou moins marquée. Puis les échelons géographiques retrécissent encore sur une ville ou un village allant à des groupes sociaux, les associations, les amis, etc. Et je côtoie et qui participe aussi à cette appartenance. Les poupées deviennent de plus en plus petites avec la famille comprenant son héritage transgénérationnel, ses traditions, ses religions et enfin, de manière plus spécifique, ses secrets et ses drames, mais aussi ses ressources et ses forces. Je suis enfin marquée par l'identité d'une activité, voire d'une entreprise, d'une religion, d'un clan ou d'une tribu, dans lesquelles je me reconnais au moins en partie et à laquelle je peux me relier par des tendances politiques, génération Z, gothique, bobo, baba cool, geek, gamer et autres. Seulement alors, et en interaction avec tous ces échelons superposés, je peux tenter de discerner quelle est ma part d'identité propre. Savoir qui nous sommes nous structure et nous apporte des repères. Répondre à la question « qui suis-je ?», même si la réponse est évolutive, donne un sens à nos vies, permet d'être inspiré et oriente nos choix. Choisir, c'est renoncer. Mais renoncer semble le seul moyen de choisir. Encore faut-il savoir quels critères prioriser. Avoir conscience de nos filtres, de nos tamis, nous y aide grandement. Car souvent, ne pas choisir, c'est laisser l'extérieur, l'entourage, la société, le marketing le faire pour nous. Et non, il ne faut pas se laisser faire. Se définir plutôt que se défendre. Répéter mon exceptionnel coach formatrice. Voilà, il faut de l'indécision. Non, le manque d'affirmation et de confiance peut être lié à un défaut d'individualité. Quand on ne sait pas tout à fait qui l'on est. De même, l'amour de soi et l'acceptation de soi inconditionnelle qui en découlent sont les corollaires d'une identité solide. Une connaissance de soi assumée à partir de laquelle orienter sa vie de manière cohérente renforce l'estime de soi. Posons simplement ici que le sentiment d'identité se révèle indispensable à notre affirmation et à notre fonctionnement en interdépendance. Souvent, la notion d'identité renvoie à des caractéristiques plutôt figées. Je suis timide, je ne suis pas quelqu'un d'impulsif. Attention à ce qu'elles ne deviennent pas des étiquettes dont il est difficile de se défaire. Alors là, je vais faire une petite parenthèse personnelle et je suis sûre que vous vous y retrouverez tous, n'est-ce pas ? C'est affreux quand on a fait une image mauvaise de soi-même dans notre enfance ou jeune ou sémi et qu'on nous la colle pour toute la vie. C'est affreux. C'est pas parce que cette action a été peut-être pas belle, ou même l'inverse, très belle, que indéfiniment nous allons être cette mauvaise image ou cette très belle image. Il faut nous laisser tranquilles, il faut nous laisser être nous-mêmes et non pas nous donner des étiquettes. Voilà pour la petite parenthèse. Parfois, il s'avère compliqué de manifester d'autres aspects que ceux que nous avons définis par nous-mêmes, n'est-ce pas ? S'éloigner de ses repères est pourtant une expérience qui permet de valider ou non ce qui nous ressemble, nous confirme dans nos choix et nos évolutions. Le fameux challenge pour sortir de notre zone du connu correspond à cela. L'accueil de l'imprévu de nos vies peut jouer ce rôle. Une grande partie de la connaissance de soi repose sur l'identification de ce qui compte vraiment à nos yeux, de ce qui nous attire, nous porte. Ce sont nos valeurs, les talents, nos atouts, qui souvent vont de concert. Distinguer nos besoins participe aussi à bâtir notre socle d'épanouissement, même s'ils sont pour certains évolutifs. Alors, Pascal Rössler nous présente par exemple un petit travail personnel que l'on peut faire par rapport à cette identité figée. Quelles caractéristiques identitaires vous attribuez-vous et vous écrivez ? Lesquelles vous attribue-t-on ? Sonnent-elles juste pour vous aujourd'hui ou vous portent-elles ? Même si elles ne sont pas des atouts, les acceptez-vous ? Ou aimeriez-vous vous en défaire ? Si tel est le cas, par quoi voudriez-vous les remplacer ? Comment concrètement pensez-vous honorer ce nouvel aspect de vous-même auquel vous aspirez, par exemple, dans une semaine à venir, dans un mois, dans quelques années? C'est à vous d'évoluer et n'ayez pas peur de l'écrire. Car l'écrire, le transcrire, permet déjà une première écologie de la conscience. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, elle nous apporte de se reconnecter à nos valeurs. Nos valeurs représentent une base de notre identité profonde. En ce qu'elle évolue souvent, peu, au cours de notre vie, même si certaines peuvent prendre plus d'importance que d'autres au fil des années, elles nous viennent pour la plupart de l'enfance et correspondent à ce qui a de la valeur à nos yeux, en ce quoi nous croyons, en ce qui est naturellement essentiel pour nous, qui motive nos élans de vie. Les honorer revient à nous brancher sur une prise qui nous donne de l'énergie, de la motivation, de l'inspiration. Plus ou moins consciemment, elle forme ainsi notre système de référence qui détermine qui nous sommes. Quelles sont nos priorités? Comment nous évoluons les choses et prenons nos décisions? Les objectifs que nous nous donnons, s'ils sont en phase avec nos valeurs, nous apportent un profond sentiment de cohérence. Il est donc primordial de les connaître, car elles sous-tendent souvent nos choix de vie. Une valeur ne nous contraint pas à faire quelque chose. Elle nous donne de l'énergie et nous motive à le faire. Elle n'est pas un devoir. Nous faisons cette chose parce que nous le voulons et non parce que nous le devons. Nous y aspirons fondamentalement, naturellement. Ce en quoi elle se distingue d'un besoin. Pour une personne de nature pessimiste qui aurait envie de voir davantage la vie du bon côté, l'optimisme est davantage un besoin qu'une valeur. Pour identifier nos valeurs, il suffit de repérer ce que nous sommes enclins à faire sans effort, voire avec allant. Par exemple, certaines personnes aiment rencontrer des gens et le font naturellement. La sociabilité est une de leurs valeurs. Quand c'est fait naturellement, cette valeur prend de grandes proportions. Évidemment, on honore des valeurs comme la vérité, la bonté, la générosité, l'indépendance, la tolérance, la maîtrise, la liberté, l'enthousiasme, le réalisme, la solidarité, l'acceptation, le confort, le succès, la régularité, la méditation, la pudeur, l'honneur, la pondération. Enfin, nous en avons plein par lequel on passe et par lequel on nécessite un comportement de nos vies avec conscience. Alors, vous pouvez par exemple choisir 10 valeurs et vous dites « Celle-ci, elle représente telle valeur parce qu'elle me permet tel comportement, telle sociabilité ou telle vie intérieure. » Ça peut être intérieur, extérieur. Et pour cela, Pascal Rosler nous propose une myriade de questions auxquelles répondre et commencer notre catharsis intérieure et extérieure. Ensuite, elle nous propose comment combler ses besoins. Nous connaître passe également par l'identification de nos besoins. Il nous appartient de les prendre en compte et de les honorer. Qu'est-ce qu'un besoin? C'est ce qui est nécessaire à notre survie, notre évolution ou notre accomplissement. Il n'est pas certain qu'il soit possible ou souhaitable de répondre à tous nos besoins. Le principe de réalité ici-bas nous impose des limites, et bien entendu. La toute-puissance représente une illusion. La frustration fait partie de la vie. Les ressources de la planète sont limitées. Les journées ne font que 24 heures. À chacun de savoir où placer le curseur dans la réponse de ses besoins. D'où les exercices. Selon l'école de psychologie humaniste, fondée aux États-Unis dans les années 1940, principalement sous l'impulsion d'Abraham Maslow, un individu en contact sain avec ses émotions favorise naturellement l'épanouissement et ses potentialités, en les traduisant en besoins. Certains sont primaires, d'autres secondaires, tous ne sont pas aussi impérieux. Les besoins primaires sont liés à notre protection et à notre sécurité. Manger, boire, dormir, respirer, besoins physiologiques. Mais aussi prendre soin de notre santé, avoir les moyens de subsister et de s'abriter sous un toit. Êtes-vous en forme? Votre lieu de vie vous ressource-t-il ou vous coûte-t-il de l'énergie? Bénéficiez-vous d'un endroit où vous pouvez être au calme? Votre emploi contribue-t-il à vous sentir sécurisé? Beaucoup de personnes en phase de transition de vie expérimentent une perte de repères. Il est normal de sentir sa sécurité psychologique menacée lorsque l'on fait face à des expériences nouvelles et inconnues. Parfois, nous ne pouvons plus répondre à tel ou tel besoin, et d'autres, en réaction, s'amplifient. Par exemple, un changement de situation professionnelle peut entraîner un besoin accru de sécurité matérielle ou affective pour calmer la tension interne. Dans ces cas-là, accueillons simplement la situation, prenons du recul et donnons-nous d'autres moyens de répondre à ces besoins ou à ce besoin. La plupart des besoins secondaires sont dits affectifs. Ce sont des besoins d'appartenance liés à l'estime de soi et à la considération. Amour, affection, reconnaissance, valorisation. Donc vous voyez, ces valeurs-là arrivent bien après. Mais vous avez bien vu que la société de consommation nous les fait passer en premier. Voilà. Lorsqu'ils sont satisfaits, la personne a confiance en elle et se sent utile. C'est les interactions. Mais certains individus, pas tous, éprouvent aussi le besoin de réalisation et d'actualisation de soi. Développement personnel, augmentation de ses connaissances, respect de ses propres valeurs, créativité, quête du beau, spiritualité, recherche de sens. Tous les enfants ont un jour été curieux et se sont posé des questions métaphysiques. En grandissant, certains conservent cette vie de l'esprit, ces interrogations fondamentales, d'autres s'en éloignent, même si ce n'est pas une fatalité. Chacun a ses aspirations propres, son équilibre et ses besoins peuvent évoluer. Ils peuvent même être contradictoires et entrer en opposition. Ceux d'affirmation et d'approbation, par exemple, rentrent parfois en conflit. Il arrive que s'affirmer ne soit pas apprécié par les autres. Mais si on ne sait pas dire non, on se laisse définir par l'autre. D'où l'importance de savoir ce qui prime à nos yeux, de communiquer et parfois de renoncer. Un besoin non satisfait peut créer une tension interne qui monopolise de l'énergie et génère un mal-être, rumination, victimisation. C'est l'un des enjeux majeurs d'une relation sociale, quelle qu'elle soit. Demander, recevoir, donner, refuser, où placer le curseur de nos attentes envers l'autre? Comment répondre à ses besoins à lui? Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, nous dit que la violence est l'expression tragique de besoins insatisfaits. Prendre conscience de notre propre violence envers nous-mêmes ou envers les autres constitue une étape clé pour faire le choix conscient de répondre à nos propres besoins et de fonctionner autrement qu'en se laissant aller à des petites ou grandes violences ordinaires, fruits de nos frustrations, dettes, attentes excessives ou non exprimées. En nous sentant chargés de la satisfaction de nos besoins, nous gagnons en autonomie et en responsabilité, et nous nous défaisons des dépendances qui nous infantilisent. En outre, en apprenant comment combler nos besoins, nous pouvons inspirer les autres afin qu'ils nous aident à nous accomplir et qu'ils procèdent de même pour eux. En fait, c'est un échange de vases communicants, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que nous identifions du coup notre talent, dit-elle. Alors, avant d'identifier notre talent, nous faisons une petite pause encore musicale en compagnie de Mayra Andraud, Manga. Dos cosas.
beira de meu, por saliva na minha pé. O manga na pupó. Forte um gosta de boa, amo num gosta de boa. Mas teu mais fundo se creu fundia na mim. Pago nasci de mim, um por dois, por três vezes. Ser mais, a voz já pode comer, se mais já pode cubar. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, amo um gosta de boa.
Mera Andrade Manga, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire. Alors, avant de conclure évidemment cette introduction du livre de Pascal Rossler, qui se nomme « Révéler votre nature », je vous fais une petite liste pour précéder au sujet précédent qui était les grands besoins. Elle nous conseille de prendre conscience de ces besoins qui demandent parfois une attention dans la durée pour progressivement mettre en place des schémas permettant de les honorer. Par exemple, on se pose diverses questions et on essaye d'y répondre, comme quel besoin vous semble mal comblé dans votre vie, voire pas comblé du tout, ou quel est le coût financier, émotionnel, physique, relationnel de ce manque. Imaginez maintenant que vous avez une quantité illimitée de ça, votre besoin, comment serait alors votre vie? Pourquoi votre besoin n'est-il pas satisfait? Dans votre famille, votre besoin est-il reconnu? Vous autorisez-vous aujourd'hui à combler ce besoin? Quelles sont les actions à mettre en place pour les satisfaire? Prenez alors un ensemble de mesures. Ou vous vous y engagez, vous pouvez bien sûr répéter l'exercice si vous identifiez chez vous d'autres grands besoins. Enfin, vous voyez, plein de questions qui vous permettent de vous remettre en phase avec vos besoins, vos manques. Mais ensuite, ce qu'elle nous propose, et je terminerai avec cela, que je trouve quand même très nécessaire, car c'est évidemment le leitmotiv de notre vie et surtout de notre personnalité, c'est d'identifier nos talents. Et oui, nos talents, ceux avec lesquels on brille un petit peu dans la société. Il est bien plus agréable et efficace de nous appuyer sur nos talents et de chercher à les faire grandir plutôt que de travailler sur nos points faibles, dont il faut surtout limiter les impacts. Connaître nos aptitudes nous aide grandement à avancer vers qui nous sommes vraiment, avec plaisir et facilité. En elles réside une partie de ce en quoi nous sommes uniques, de ce que nous pouvons apporter au monde. Nos choix de vie s'appuient bien souvent aussi sur nos talents, qui se déploient à la croisée de ce qui fait sens pour nous et nous apporte du plaisir. Nos atouts sont des pépites qui peuvent être transposées pour nous soutenir dans les divers domaines de notre vie. Et je terminerai par la phrase « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre », c'est d'Alain. À bientôt sur la radio de Radio Escapade. Au revoir. I have a dream.
My definition.
A dream.
My definition.
A dream.
My definition.
A dream.
My definition is this. My definition.
A dream.